Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way. That destructive power does it again.
Fighters Club.
I'm the baddest motherfucker on the planet.
Hey, je vous invite quoi?
Charles Chevalier.
I am the greatest.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver, c'est le RMC Fighter Club. Beaucoup d'actualités en ce lundi avec un gros week-end de sport de combat. On va débriefer un peu de tout ça de manière générale et on va faire un gros focus sur l'UFC 327 avec la folie de ce combat entre Ulberg et Prochaska. On va vous en parler ainsi que du reste de la carte. Baba, le pilier du RMC Fighter Club, est à mes côtés comme d'habitude. Salut Baba.
Salut Charles, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, ça va. Bah écoute, bien récupéré d'une belle nuit, surtout d'un gros week-end. Il y avait vraiment beaucoup de bagarres.
Gros week-end. Alors nous on s'est couché vers 7-8 heures du matin après l'UFC, ouais. Mais il y en a qui se réveillaient vers 6 heures pour le marathon. C'est
exactement
la folie du marathon. Là dimanche, moi, en sortant des studios à RMC Sport, c'était pas très loin. Il y avait plein d'installations, plein de trucs, et tout le monde parle du marathon, c'est un truc de fou. T'étais pas sur le marathon, toi?
Ah, j'étais pas du tout sur le marathon. Par contre, ils m'ont forcé à faire pas mal de détours pour rentrer chez moi, vu que tout était fermé. Ouais. Et voilà, merci Yacine de m'avoir prévenu parce que j'avais oublié en plus.
Ouais.
Mais je suis pas rentré facilement. Ouais.
J'ai vu que d'ailleurs, le marathon, ils envisageaient de le faire sur le périph. Donc la prochaine fois, plutôt que de prendre le périph, tu pourras peut-être passer dans Paris.
Bah, ça sera bien.
Voilà, c'est les petites news marathon aussi de ce week-end. Et bravo à toutes celles et ceux qui étaient sur le marathon, qui l'ont fait, qui ont fait des bons chronos ou pas. En tout cas, déjà le fait de s'aligner sur un 42 km 195, c'est solide.
C'est fort. Un gros big up à la team RMC Running, le podcast. Ils l'ont fait, ils ont couru le marathon en faisant un podcast.
Ouais, exactement.
Franchement, un gros big up à eux. Allez écouter le podcast parce que c'est génial. Et surtout, un énorme big up à Max Abolin qui a fait cette course alors que voilà, il a été opéré du cœur il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est juste énorme et très inspirant, et je tire un gros coup de chapeau.
Du coup, pas d'énorme big up pour Arthur Robert qui est le producteur
Il est juste assis là, lui.
Il est assis.
Ouais.
Bon allez, pour 2027 allez, peut-être, pour 2027 Marathon de Paris, Arthur, on ira ensemble, tu veux, avec Baba. On se lance le défi. Par contre, faire un podcast combat en faisant un combat, ça va être compliqué quand même. Tu crois que c'est possible?
Essayons.
On peut essayer.
C'est un challenge qu'on peut faire.
Faut pas faire un match-up pas trop compliqué alors. Allez, c'est parti pour le RMC Fighter Club. Débrief de tout ce qui s'est passé en combat ce week-end. Bon bah, il y a eu beaucoup de choses, on l'a dit, Hexagone MMA, on va vous proposer un épisode spécial sur le Hexagone MMA 43 qui était au Zénith de Paris avec un invité qu'on aura mercredi normalement.
Un nouveau champion en plus, on aura une ceinture sur la table, donc ouais, il y aura Bafo Degassama avec nous, manquez pas ça mercredi.
Voilà, manquez pas ça, il s'est passé beaucoup de choses au Hexagone MMA, on pourra aussi commencer à envisager un petit peu ce qui va se passer à Bordeaux, puis ce qui va se passer aussi à Lyon, Paul Dena, Anzor, enfin c'est vrai qu'il y a pas mal de hype en ce moment autour de Hexagone MMA, même si le combat principal entre l'étau du Chloé Bouafia, il s'est mal terminé avec une blessure de Bouafia qui est arrivée très très tôt dans le combat.
Ouais.
D'ailleurs, c'était peut-être un clin d'œil ce qui s'est passé sur le main event de l'UFC 327, mais avec finalement un Prochaska qui a rendu la fin de l'UFC 327 plus intéressante que celle de l'Hexagone MMA. Mais bon, en tout cas, on va en parler tout à l'heure sur Ulberg Prochaska, mais ça fait peut-être partie aussi des prépas, tu vois, c'est quoi les cuttings, enfin il y a des blessures qui arrivent aussi de manière assez inattendue pendant des combats qui peuvent être le fruit d'une préparation sur lesquelles il faut se poser des questions.
Ouais, c'est vrai que la préparation en MMA, on oublie à quel point elle peut être dure, à quel point elle peut être brutale pour le corps. La plupart des combattants arrivent dans la cage blessés. Et faut faire un choix de combattre ou de ne pas combattre. Apparemment, la blessure était préexistante, donc selon le manager Younes, le choix a été fait de combattre. Donc ça peut être discutable pour certains comme pour d'autres. Comme tu l'as dit, dans la même nuit, on a eu les deux cas de figure. On a eu celui qui perd sur la blessure, on a eu celui qui gagne malgré la blessure. Donc écoute, ça fait partie de l'histoire du combat, c'est comme ça.
Voilà pour Hexagone MMA, donc rendez-vous mercredi sur l'épisode du mercredi avec Bafo Degassama qui sera notre invité si tout va bien, et on vous débriefera du coup plus en détail, plus en longueur cet Hexagone MMA qui avait lieu au Zénith de Paris samedi soir, juste avant le début de l'UFC, avec une continuité d'ailleurs qui était sur RMC Sport. On vous a fait vivre l'intégralité de cette soirée qui s'est terminée après l'UFC 327. Il y a eu un peu de boxe anglaise aussi, Baba, avec une victoire de Tyson Fury. Moi je trouve que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, hein. Tu vois ce que je veux dire, les combats de Tyson Fury avant, tout le monde le savait, mine de rien, qu'il y avait un combat de Tyson Fury, même si c'était pas face à des adversaires forcément très connus. Là, je trouve que c'est passé un petit peu en dessous des radars. Malgré tout, Tyson Fury est allé gagner à la décision.
Ouais, c'est vrai que c'était noyé au milieu d'un énorme week-end de bagarre pour les fans du monde entier, mais pour nous, fans français en plus, parce qu'on avait l'Hexagone, etc. Donc, Donc ouais, c'est vrai que ça avait l'air un peu plus confidentiel quand j'en parlais avec certains. Et en fait, quand j'ai écrit l'article sur Tyson Fury qui est paru samedi, on m'a dit mais il combat ce week-end. Et j'ai dit ouais, en fait, il combat ce week-end. Donc c'est à ce point-là que le combat était peut-être pas intégré par les fans. Je sais pas si les gens en ont marre de Tyson Fury, si on se dit que c'est toujours la même chose. L'adversaire aussi, Arslan Makhmoudov, sans lui manquer de respect, bah c'est pas l'adversaire que les gens voudraient voir affronter Fury. On veut du Joshua, on veut du Wilder, on veut même certains veulent encore un combat contre Usyk. Donc ouais, c'est vrai que ça donnait pas l'impression d'être un big fight d'une big star de la boxe.
En tout cas, je me suis connecté sur Netflix hier soir et bon, ça apparaissait dans les séries. Ça te met toujours top 10 des séries aujourd'hui, des films aujourd'hui. Et le Fury Makhmoudov, il était 3e dans les séries visualisées dans la journée. Donc est-ce que c'est 3e dans le monde ? Après, c'est aussi un événement, c'est ce que fait Netflix aussi maintenant, c'est ce qui sera le cas avec la carte MVP en MMA, mais bon, c'est sûr que ça réunit du monde, donc ce serait aussi inquiétant que ce soit même pas dans le top 10 de ce qui a été le plus visionné dans la journée, parce que c'est événementiel, c'est sur une journée. Je pense qu'il y a un peu de replay derrière, il y a un peu de visualisation qui est en après-coup, mais bon, je pense que si tu capitalises pas à ce moment-là, ce serait encore plus inquiétant que ce soit dans le classement.
Ouais, voilà, ce serait bizarre, là, du coup, Netflix reculerait à mon avis dans ce business, ce serait pas venu pour ça. Ouais. Maintenant, je peux pas te garantir que les fans qui ont cliqué sur le combat soient restés jusqu'au bout, parce que pour nous, fans de boxe et analystes de la boxe, on aime bien ce genre de combat, parce que Fury, il a exprimé quand même toute sa maestria dans le combat. On l'a revu certaines fois, on a revu son génie même certaines fois dans le combat, clairement, il a dominé de la tête et des épaules. Mais pour le fan, on va dire, l'abonné Netflix qui suit pas spécialement la boxe, il a pas vu des feux d'artifice, quoi. Il a pas vu des KO, il a pas vu des knockdowns, donc peut-être qu'il est pas spécialement resté très longtemps.
Et puis est-ce que on se dit que Tyson Fury est encore ce qui se fait de mieux en boxe anglaise ou pas? Moi, je sais pas, je me dis que depuis que Usyk est arrivé et qu'il a tout défoncé. Tu sais, quand on disait c'est bon, on vit un nouvel âge d'or de chez les poids lourds, Anthony Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder à l'époque, tu vois, est-ce que ça représente encore ce qui se fait de mieux en boxe anglaise, Tyson Fury, pour les gens, d'après toi?
Pour les gens, moi je pense que pour les gens, ils l'ont encore très haut. Ouais. J'ai l'impression qu'ils l'ont encore très très haut et qu'ils voient certainement Usyk. Il voit enfin ce qu'on a vu pendant des années, il voit la grandeur du Zik, et c'est très bien. Mais je pense qu'on le voit encore comme un très grand combattant, enfin surtout je pense qu'on le voit encore comme un combattant qu'on voudrait voir, pour les fans de boxe en tout cas. Quand tu dis Fury, on veut quand même se brancher, on veut quand même essayer d'aller regarder. C'est plus le fan lambda, entre guillemets, ce qu'on appelle casual aujourd'hui. Je sais pas trop si Fury leur apparaît comme la figure du champion poids lourd actuel, tu vois. Je sais pas s'ils en ont une actuellement en tête d'ailleurs, si je demande au grand public. Je sais pas trop.
Le truc, c'est que pour moi, Usyk, il n'est pas grand public. Donc, du coup, la figure qui s'imposerait comme évidente aujourd'hui pour le grand public, comme elle n'est pas pour moi très grand public, tu vois, là où Joshua Fury, c'est connu de tout le monde, quasiment. Ouais. Usyk, tu vas demander à quelqu'un entre guillemets lambda qui suit un peu le sport dans la rue, etc. Il va dire ah peut-être que machin, mais il va pas te dire que il va pas te donner le pedigree du mec et savoir que c'est un boxeur de fou furieux.
Je pense pas.
C'est là où peut-être qu'ils ont encore une place qui est pas trop mal les Fury Joshua. Et justement, il y a eu une sorte de call out en fait de Fury. Alors est-ce que ce sera un combat qui se ferait comme d'hab 10 ans trop tard? C'est la question qu'on pourrait se poser. C'est des questions.
Est-ce que toi tu veux voir le combat, toi?
Moi, franchement, oui.
Quand même.
Moi, oui. Quand même. Toi aussi ?
Ouais, bien sûr.
Ouais. Donc, en gros, on raconte ce qui s'est passé, mais à la fin du combat, sur le discours d'après-fight, Anthony Joshua était front ring, il était juste devant le ring, etc. Et du coup, de manière assez en mode Tyson Fury, avec toute sa bonhomie, etc., il dit qu'en gros, ce serait bien de combattre contre Anthony Joshua. Et moi, j'ai été un peu interrogé sur le body language, en fait, d'Anthony Joshua qui était à côté. Alors, on sait, moi maintenant, là, dès que je vois des images d'Anthony Joshua, j'arrive pas à dissocier ce qu'il a vécu récemment.
Exactement, c'est dur.
Cet accident de voiture au Nigeria, ces deux potes qui sont morts sincèrement, ça me donne des frissons là en en parlant. Tu vois, je me dis que en fait, on continue à voir le mec qui participe à des événements médiatiques, qui assiste à des combats. C'est pas la première fois qu'il était en tant que spectateur sur un événement depuis qu'il a eu l'accident. Mais je me dis ce que ce mec a vécu très récemment, c'est un truc de fou. vivre ce qu'il a vécu, c'est traumatisant pour n'importe quelle personne. Évidemment. Et ça l'est même si t'es un boxeur ultra richissime, ultra connu et que t'es un poids lourd, t'es bien costaud, c'est quelque chose dont il faut se relever. Donc en fait, dès que je le vois, j'ai envie de croire en la sincérité de tout ce qu'il fait maintenant. J'ai une image qui a un petit peu changé aussi de lui.
Bah, déjà, c'est normal de le vivre comme ça. Encore une fois, il a perdu. On a tous vécu ses pertes. En plus, on parle de gens avec qui il est ami depuis toujours. Et en plus, c'est des gens qui font partie de son staff. Donc, ça veut dire que même professionnellement, quand tu parles d'Anthony Joshua, tu sais que la prochaine fois qu'il sera dans le ring, et pour la première fois, je crois, depuis ses débuts, ou en tout cas depuis qu'il est devenu aussi connu que ça, ces deux gars-là ne seront pas avec lui. Parce qu'ils ont été là, ils ont été de toutes les batailles. Donc, pour lui, ce sera quelque chose. Et ouais, je pense que ce sera très émouvant le jour où il devra remonter sur le ring et qu'ils ne seront pas là, ces deux gars-là. Ensuite, Joshua, tu peux dire ce que tu veux du mec. Déjà, il a pris tous les mecs qu'il pouvait dans sa génération. Il a pris tout le monde. Il est parti prendre des Bourbiers, il a pris Andy Ruiz, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été connu défavorablement aux États-Unis pendant pas mal de temps, parce qu'il a pris, un risque, il a pris un Bourbier, ça a pas payé. Il a pris Usyk deux fois, il a pris Usyk, alors qu'il y a plein d'autres champions qui l'ont esquivé. Ça arrive tout le temps dans les autres catégories de poids. Tu vois le Bourbier arriver, tu dis « Ah non, certainement pas, je vais faire autre chose, je vais rendre vacante ma ceinture, enfin je vais me débrouiller pour pas l'affronter. » Lui, il a pris, il l'a repris derrière. C'est ce qui a forcé Fury à le prendre derrière, d'ailleurs, tu vois. Moi, Joshua, il m'a toujours paru quelqu'un d'honnête dans sa manière de traiter le business, d'essayer de prendre les gars le plus possible. Je l'ai vu call out Wilder pendant des années, je l'ai vu call out Fury pendant des années, etc. Mmh. Maintenant, on ne sait pas trop ce qui se passe en coulisses. Ça peut être un peu plus difficile de faire les combats. Je ne te dis pas qu'il n'a pas sa part de responsabilité dans certains combats qui n'ont pas été faits. Mais ce que tu dis, qui te paraît, tu vois, sincère dans sa démarche, c'est quelque chose que j'ai toujours perçu. Encore plus aujourd'hui, évidemment, avec ce qui s'est passé.
T'as toujours eu cette image à lui.
Voilà. Donc quand je le vois affalé là, sur sa chaise, en train de subir le call-out de Fury, qui lui, pour le coup, soyons honnêtes, est exactement l'inverse. Ouais. C'est quelqu'un à qui tu ne peux pas faire confiance. Quelqu'un qui a beaucoup call-out sans faire les choses qu'il fallait derrière, qui a pris 5 retraites différentes, dont certaines, alors qu'il y avait des combats qui étaient enclenchés. On n'a jamais eu la revanche contre Vladimir Klitschko parce qu'il a pris sa retraite. N'oublions pas, en fait. Klitschko, il était là, il était prêt. Il y a eu une conférence de presse, il a dit « je me retire ». Certes, il a eu des problèmes mentaux, etc., des problèmes de drogue. Attention, il y a des circonstances atténuantes. En tout cas, ce sont les faits. Derrière, il y a eu Usyk, il a beaucoup fait galérer Usyk, jusqu'à ce qu'il n'y a plus le choix de faire le combat, parce que tout le monde lui disait « mais t'es un canard, qu'est-ce que tu fais en fait, faut y aller ». Et Joshua, la call-out, et on est factuel, j'ai été vérifié. Allez regarder, tapez Fury Joshua sur Google, vous allez voir le nombre de fois que Joshua a voulu faire le combat. Et Fury, il y avait un petit truc, une excuse, je sais pas, je vais faire ça, ou je dois faire ma trilogie contre Wilder, etc. Donc, je comprends. Moi, je comprends la position de Joshua. Je comprends parfaitement sa position de dire, c'est pas toi le boss ici. Ouais. C'est pas toi qui contrôle ce que je vais faire. Ouais. C'est pas toi qui contrôle ma carrière. Donc, on fera le combat quand j'ai envie de le faire, et tu le feras selon mes termes.
Ouais, mais c'est... Quel foin tu pourrais faire si tu faisais ce combat-là, là je crois que c'était au stade de Tottenham.
Tottenham.
Donc tu remplis encore un stade pour un adversaire que personne ne connaît.
Juste sur son nom.
Tu vois ce que je veux dire, juste sur son nom. Donc si tu arrives à faire le Joshua Fury, ça resterait un truc de fou. Ouais. Et que ce soit toi et moi et n'importe qui suit la boxe de près ou de loin, celui-là, je pense qu'il est premier sur Netflix, si ça se fait sur Netflix
à l'instant. Donc, c'est inévitable. Juste les fans anglais vont faire en sorte que ce soit top tendance monde sur Netflix, sur ce que tu veux, clairement.
Après, quand j'entendais ce que tu récitais, ce que tu racontais de Tyson Fury, je me dis c'est vraiment le Conor McGregor de la boxe, en fait. C'est quand tu parlais de call-out dans le vent, quand tu parlais de fausse retraite, quand tu parlais de problèmes mentaux, quand tu parlais de problèmes d'hygiène extra-sportive, etc. C'est fou le nombre de points communs qu'il y a entre Conor et Fury au final.
Ah bien sûr, ils ont emprunté le même chemin, clairement. Sauf que Fury, lui, il est revenu et j'ai un énorme respect pour son retour et la shape dans laquelle il était dans le combat, dans les deux combats contre Usyk d'ailleurs, ce qu'il a été capable de proposer, j'ai un énorme respect pour ça. Il y a pas de souci. C'est te montre à quel point c'est un boxeur absolument exceptionnel. C'est un génie de la boxe, je dirais toujours, ce mec. Mais voilà, j'ai un peu plus de sympathie pour Joshua, pas par rapport à ce qui lui est arrivé, mais dans ce sujet précis, pour avoir suivi la chose de très près.
Ouais.
Ouais, Fury, puis, il essaie de rentrer dans la tête des fans pour dire ah, regardez, c'est pas moi, c'est lui le lâche.
Ouais.
Bah non, j'achète pas.
De toute façon, Joshua, je pense que même hors combat, hors période de combat, il n'y a pas un moment où tu l'as vu hors shape.
Ah, ça n'existe pas, lui.
C'est, il a une shape. Et donc, à mon avis, il y a un fil qui se tire comme ça, qui vient regrouper pas mal de choses.
Ouais.
Et sur ce fil-là, bah, t'as l'hygiène, t'as aussi du coup le. Enfin, c'est ça va avec. Je veux dire, l'hygiène qu'il a dans sa vie, et quand tu vois la shape qu'il a tout le temps, et bah, c'est un truc qu'il a aussi appliqué dans ses call-outs, dans sa carrière, dans la manière dont il l'a construite. Donc, c'est tout ça semble se tenir. Et à l'inverse, Tyson Fury, lui, il y a des hauts et des bas, et c'est le cas aussi dans ses relations avec les autres boxeurs, et ses relations avec ses managers et compagnie. C'est un personnage particulier. Mais ce que j'ai envie de leur donner quand même à Conor et à Fury, à mon avis, c'est aussi ça qui a fait leur réussite au niveau médiatique, c'est que c'est moyennement, alors sur Conor ça l'est plus depuis quelques années, mais c'est moyennement leur personnage est vraiment fou.
Oui.
C'est pas, c'est pas des personnages
ah
français.
Non, pas. Là où contrairement à quelqu'un dont on va parler tout à l'heure.
J'allais faire la transition à la fin pour te lancer là-dessus avec Josh Okit, mais en l'occurrence. C'est des mecs vraiment fous pour moi. Quand ils prennent leur téléphone pour call out quelqu'un, il n'y avait pas trop, surtout au début, je pense qu'il n'y avait pas trop de genre, attends, je vais call out là, donc peut-être que machin. C'était genre, j'ai envie de le défoncer maintenant. Mais le lendemain matin, tu te réveilles dans un autre état d'esprit et tu as moins envie de faire ce combat.
Exactement. Moi, non, c'est leur personnage. C'est des mecs qui m'ont fait rigoler, les deux, l'un ou l'autre.
Ah ouais,
et qui m'ont fait aussi, qui m'ont aussi énervé par certaines de leurs déclarations, surtout McGregor et sur ses comportements. Tu peux rigoler, mais ensuite, très vite, il a arrêté de nous faire rigoler, et même au-delà de ça. Mais quand Conor, il vanne Fiber, tu sens que c'est très naturel. Tu vois, Fury, c'est la même chose. Quand il va déguisé en Batman dans une conférence de presse, tu rigoles. Parce que le mec, il est taré.
En vrai, le Conor Prime, il était aussi prime dans la cage qu'il l'était en dehors de la cage.
Il était très fort, il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'il était comme ça.
Mais là où il était très fort, c'était les conférences de presse.
Bah oui.
Plus qu'en dehors, sur d'autres trucs, etc. Les conférences de presse. La conférence de presse qui est faite dans un truc un peu bas de plafond, là, avec Nate Diaz, où il ne veut pas lancer les trucs, etc. Il y a tous les Crips qui sont en train, enfin je sais plus, c'est Crips ou Blood d'ailleurs, il y a tous les gars qui font ça, c'est exceptionnel. Et les conférences de presse avec Alvarez et tout, c'est exceptionnel.
Tu peux rien dire. Et puis surtout, la répartie, c'est pas quelque chose que tu vas aller réviser avant ta conférence de presse, contrairement à Covington, enfin des mecs comme ça, tu vois. La répartie, ces mecs là ils l'ont et ils l'auront toujours, et c'est pour ça que des fois t'as envie de les voir.
Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, c'était une grosse époque en tout cas, hein, tout ça.
Ouais,
fin des années 2010 avec Conor notamment. Et puis il y avait moins de garde-fous aussi. Il y avait plus de choses encore possibles. Même Dana White qui était là, mais je pense qu'il y avait plus de choses possibles. Et c'était une époque qui était un peu plus drôle que maintenant.
Ouais. Ah, rien à voir aujourd'hui. Ils voulaient arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ouais. Maintenant qu'ils ont les 7 milliards dans la poche, on est dans une époque différente et tout est complètement différent.
Et maintenant, ça laisse la place à des Josh Okit, Baba.
Exactement.
Dont on va parler dans quelques instants.